Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
De Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec aujourd'hui Christophe Barbier et Lucie Robquin. Christophe Barbier, éditorialiste, comédien, écrivain. Lucie Robquin, rédactrice en chef aux Échos. La grève dans la fonction publique au menu de notre discussion d'aujourd'hui. Les profs, les infirmiers et même Météo France. Il est urgent d'ouvrir sans délai des négociations pour améliorer les carrières et prendre les mesures générales pour les salaires, notamment en revalorisant le point d'indice dans une situation d'effondrement du niveau des rémunérations des agents publics, dit le communiqué de l'intersyndicale. Lucie, s'agit-il d'un échauffement avant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Exactement, c'est une répétition générale avant des mobilisations potentiellement plus massives. On sent que la tension monte à l'approche des JO, on sent que le rapport de force bascule en faveur des syndicats et que le gouvernement est prêt à lâcher beaucoup d'argent pour que l'événement mondial se passe dans des conditions optimales. Alors Stanislas Guérini a déjà concédé beaucoup de primes pour les agents mobilisés, presque 1 milliard d'euros, c'est considérable. Mais la CGT a néanmoins déposé un préavis de grève pour les Jeux Olympiques. On a donc guère de doute sur le fait que la facture va encore augmenter.
Lucie, le paradoxe de tout cela, c'est que les Jeux Olympiques ont été vendus comme étant financièrement neutres pour la France au point de départ. On disait tout sera recyclé, il y aura des financements privés, il y aura des sponsors, on va utiliser des monuments déjà existants. Ce qu'on va construire en plus servira ensuite. Enfin, ce sera vraiment des JO recyclable, et on s'aperçoit que l'addition est là quand même.
La facture est encore est déjà en train de déraper. La Cour des comptes a posé plusieurs alertes de ce point de vue-là. C'est un classique, les Jeux Olympiques coûtent souvent beaucoup plus cher que les villes l'annoncent, et je crains que Paris ne déroge pas à la règle.
Christophe Barbier, est-ce qu'il est légitime, comme je viens de le faire un peu insidieusement, d'intégrer dans la facture des Jeux Olympiques les augmentations de salaire préalables des fonctionnaires pour pouvoir tenir ces Jeux Olympiques ?
Bien entendu, il est légitime d'intégrer cela, ça fait la même facture. Mais il faut raisonner aussi en termes d'investissement. Si ces Jeux Olympiques nous permettent d'améliorer l'image de la France, d'attirer pour les 10 années qui viennent plus de touristes et plus d'investisseurs en montrant comment notre pays est magnifique et efficace, ça ne sera pas de l'argent perdu. Ça sera de l'argent bien placé avec un retour sur investissement. Tant pis si la facture dérape un peu, pourvu que ce retour sur investissement soit au-delà de nos espérances. Mais pour avoir ce retour sur investissement, il faut que les Jeux se passent bien. Alors il y a des choses qu'on maîtrise pas complètement, c'est tout l'aspect sécurité, c'est l'aspect météo aussi. Et puis il y a des choses qu'on pourrait maîtriser plus, et c'est notamment la bonne tenue des services publics et des agents publics pendant cette manifestation. Il est légitime de donner des primes. Il y aura un surcroît de travail, on oblige les fonctionnaires à décaler leur congé, il y aura un stress, c'est normal qu'on donne des primes. Moi je suggère même d'en donner 2 des primes. Et je recommande aux syndicats d'être un peu subtils dans leurs négociations. Une prime négociée avant, parce que d'évidence il y aura un surcroît de travail et de stress. Et puis après, en septembre, on fait le point, on voit comment se sont passés les Jeux. Et si ça a été plus tendu que prévu, plus lourd que prévu, plus difficile que prévu pour les agents publics, je pense notamment aux policiers, aux agents hospitaliers, à tous ceux qui sont sur le terrain, eh bien on fait un bonus, on fait une surprime, parce qu'on considère après coup que la prime décidée avant était insuffisante. En revanche, profitez des Jeux pour faire une espèce de chantage à la grève en disant « Oulala, si vous ne revalorisez pas les salaires de fonds, on parle plus de primes, on parle de salaires de rémunération, alors là, on va vous planter vos Jeux ». Ça, c'est irresponsable de la part des syndicats et c'est surtout antipatriotique. D'autant plus qu'ils le paieront très cher. Parce que si ces Jeux se passent mal, tout ce qui aura été donné avant par le gouvernement étranglé qui voudra à tout prix sauver ces Jeux, ça sera repris après. Et donc ce sont des années de vaches maigres qui se préparent pour les fonctionnaires. Ça sera injuste après, mais ils paieront l'irresponsabilité des syndicats d'aujourd'hui.
Lucie Robquin,
c'est un chantage effectivement assez honteux et ça encourage certains parlementaires à vouloir mieux encadrer le droit de grève. On a vu des sénateurs centristes qui ont déposé une proposition de loi pour permettre au gouvernement de fixer des périodes au cours desquelles les grèves de transport seraient interdites.
À l'italienne,
c'est ça, en Italie, pendant la période de Noël. Au mois d'août, les syndicats n'ont pas le droit de faire grève dans les transports. C'est quelque chose qui pourrait arriver en France aujourd'hui. Donc attention, syndicats, restez constructifs pour ces Jeux Olympiques.
Sinon, il y aura un retour de bâton.
Je voudrais vous poser une question, Lucie Robquin. Comment vous expliquez que depuis le Covid, les politiques ont dit il y a des gens en première ligne, les services publics, c'est important, et évidemment l'hôpital, mais pas que l'hôpital. Depuis plusieurs rentrées, on parle parle de la priorité donnée à l'éducation nationale parce que c'est un enjeu sociétal. Comment vous expliquez que les services publics français chouchoutés par l'État, priorité de l'État, on a le sentiment d'un disque rayé, c'est-à-dire que rien ne change, qu'on a le sentiment que ces services publics ou ces fonctionnaires soit ont le sentiment de n'avoir pas été entendus, soit n'ont pas été entendus malgré les affirmations du gouvernement.
Tout à fait. Les syndicats estiment que les fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat récemment. Le gouvernement réplique que c'est tout à fait faux. Leur rémunération a augmenté de presque 3,5% par an sur les 10 dernières années. Le pouvoir d'achat, les prix, eux, ont augmenté 2%. Il y a donc eu un gain de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Le problème, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu de moins en moins de mesures générales et de plus en plus de mesures catégorielles. Et ça embête beaucoup les syndicats parce qu'à mesure que les salaires s'individualisent, ils perdent en influence. Voilà, mais rappelons quand même quelques chiffres. Sur 10 ans, plus 50% de rémunération dans la fonction publique hospitalière, il y a eu un réel effort de l'État. 40% pour les fonctionnaires de l'État et 35% dans les collectivités locales, c'est beaucoup.
Est-ce que l'argent, Christophe Barbier, soigne tous les mal-êtres, tous les malaises de la fonction publique?
Non, bien sûr. C'est un cautère sur une jambe de bois. C'est un lot de consolation. C'est important, l'argent. Il faut rémunérer, évidemment, les fonctionnaires. Mais il faut remettre aujourd'hui en question, de manière positive, la sécurité de l'emploi. L'emploi à vie dans la fonction publique. Longtemps, ça a été considéré comme un tel privilège qu'on pouvait moins payer les fonctionnaires puisqu'ils ne risquaient pas le chômage. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a beaucoup de métiers en tension. Donc, les qualifications d'un fonctionnaire font que s'il était dans le privé, il trouverait tout de suite, sans problème. Et notamment dans l'enseignement privé, par exemple. Ensuite, il y a l'idée qu'on est enfermé dans une carrière avec l'emploi à vie.
C'est pas du tout le cas dans le privé.
Et non.
Où la mobilité est
bien
très
sûr
valorisée, encouragée.
Or, nous voyons que les gens aujourd'hui veulent faire 2, 3, 4 métiers dans leur vie, ils veulent bouger. L'idée de se dire, oh là là, pendant 40 ans, je vais faire le même métier, prof, policier, magistrat, c'est insupportable. Alors, on peut créer des passerelles entre les fonctions publiques. C'est difficile, on le voit. On devrait dire aux fonctionnaires, écoutez, vous êtes engagé dans la fonction publique pour 10 ans. Dans 10 ans, on fait le point. Si nous, l'État, nous, les collectivités locales, on n'est pas contents de vous, eh ben, on vous demandera de partir, mais on vous accompagnera. On vous formera pour vous aider à trouver un emploi dans le privé. Si vous, fonctionnaire, vous n'êtes plus content de votre emploi, vous n'êtes plus content de votre employeur public, eh bien, vous aurez le droit de le faire valoir et nous vous aiderons, nous serons obligés de vous aider à aller trouver un emploi ailleurs. Cette oxygénation de la vie professionnelle doit être offerte aujourd'hui aux fonctionnaires en leur supprimant ce qui apparaît comme un parachute, mais qui est en fait une camisole, c'est la sécurité de l'emploi, l'emploi à vie.
Il y a déjà des outils de souplesse, Lucie Robquin, et qui ne sont pas uniquement réservés aux énarques, à savoir qu'on peut se mettre en sourdine de la fonction publique, partir, revenir, on n'est pas obligé de démissionner sec, et cette bretelle-là ou cet élastique-là devrait favoriser la mobilité.
Il y a des souplesses, ça reste néanmoins très rigide et c'est un chantier que veut porter le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, hein, apporter plus de mobilité aux fonctionnaires. Prudemment, ce chantier a été reporté à septembre après les élections européennes. On sent bien que les syndicats sont résolument contre.
Comment expliquez-vous cette crispation syndicale en France notamment? Alors que bon, il y a d'autres sujets où il n'y a pas de crispation. Les syndicats et le gouvernement ou les partenaires sociaux s'entendent et généralement ils s'entendent sur des choses importantes et on n'a pas du tout de grève et on en parle très peu et le changement s'opère. Mais comment vous expliquez-vous ce mal français qui est on avance par le conflit?
Le problème, je pense, en France, c'est que la grève est le début du dialogue social, alors que ça devrait être l'arme ultime du conflit social. On fait grève et ensuite on discute. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la fonction publique. Alors, ceci dit, n'idéalisons pas les pays alentours. On sent qu'en Allemagne, cette culture de la grève s'accentue. Il y a beaucoup de grèves dans les transports en commun en ce moment en Allemagne. Mais effectivement, c'est une culture un peu historique chez nous.
C'est fondamental, c'est notre ADN. Vous voulez que je vous reparle de la révolte des Tuchins en 1382
ou
des Pitons
oui
en 1448? Je pense que l'ADN français, c'est l'ADN du conflit. On attend la décision du haut, on se révolte contre la décision du haut, et puis on trouve un modus vivendi ou une issue de secours. Donc il faut pas chercher à supprimer cela, faut essayer d'en limiter les dégâts. Les dégâts humains, bien sûr, mais aussi les dégâts sur l'économie française et sur la crédibilité de notre pays. Et ça passera quand même, à un moment donné, par des syndicats qui abandonneront le marxisme, c'est-à-dire la lutte des classes, pour des syndicats qui iront vers la recherche du compromis, du consensus, bien entendu à la davantage les salariés, mais qui soit beaucoup plus constructif. Ça prendra encore quelques décennies, à mon avis.
La voix française, sans transition, c'est le titre du livre que sort demain Bruno Le Maire, notre ministre de l'Économie et des Finances. Quelle lecture vous faites de la publication de cet ouvrage qui va bien au-delà de la fin de son mandat de ministre des Finances?
C'est d'évidence le premier pavé du chemin qui doit l'emmener vers une candidature en 2027, où il fait à la fois le bilan de ce qu'il a fait au ministère de l'Économie et puis des réformes qui lui restent à faire, avec par exemple des choses inédites comme un référendum sur la protection sociale pour passer de l'État-providence à l'État protecteur. C'est intellectuellement intéressant, c'est politiquement dangereux et littérairement, c'est comme toujours avec Bruno Le Maire, intéressant à suivre.
Lucie, un dernier mot.
La voix française, c'est vraiment un titre présidentiel, hein, effectivement. Bruno Le Maire estime qu'il y a un moment pour parler notamment de rigueur. La note française va peut-être bientôt être dégradée par les agences de notation. Et par ailleurs, la seule personne qui incarne aujourd'hui cette rigueur en France, c'est Édouard Philippe. Et il est étonnamment absent aujourd'hui. Donc Bruno Le Maire estime qu'il tient là un moment. Voilà, il s'expose à une difficulté majeure, c'est que je crois qu'on n'a jamais été élu sur ce thème de la discipline budgétaire.
Mes amis, nous allons nous séparer avec de la country music et prolonger le plaisir de tout à l'heure dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, qui évoquait le grand retour de cette musique avec Taylor Swift, Beyoncé, Lana Del Rey. On écoute Beyoncé, je trouve cela plus engageant qu'Aya Nakamura. Et je vous avoue que c'est dans les grands classiques qu'on fait la meilleure musique de cow-boy. Lucie, Christophe, merci.
Bonne
à
journée.
La semaine prochaine.
Bonne journée.
We headed to the dive bar, we all